L'info, c'est 24h/24 sur voafrique.com.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Nous sommes lundi et on se retrouve encore pour parler du sport sur votre radio. Bienvenue à tous sur Sporama. Au micro, Élisée Rumpati. On va évidemment parler de l'élection du président de la CAF. La FIFA a trouvé un compromis entre les quatre candidats en lice. Ainsi, l'Ivoirien Jacques Anouma, le Sénégalais Augustin Senghor et le Mauritanien Amer Diaya ont annoncé le retrait de leur candidature pour le poste de président, ce qui de facto laisse le champ libre au Sud-Africain Patrice Motsepe. On va d'abord saluer nos consultants. Lawal Dine Kosuo qui est avec moi dans ce studio. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir.
Amine Birouk est en direct de Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Amédine Si depuis Columbus dans l'Ohio. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
En direct de Kinshasa, Valdo Simbo Yamba Yamba qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Valdo.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Sporama ce soir, c'est aussi la CAN des moins de 20 ans en Mauritanie, remportée par le Ghana, tombeur 2-0 de l'Ouganda en finale. Bienvenue à tous. Sud-Africain Patrice Motsepe sera seul en lice vendredi prochain le 12 mars à Rabat pour l'élection du président de la CAF. Ses trois rivaux candidats déclarés se sont rangés derrière lui conformément au protocole de Rabat. Augustin Senghor, le Sénégalais, Jacques Anouma, l'Ivoirien et Ahmed Yahia, le Mauritanien, étaient réunis à Nouakchott en marge de la finale de la CAN des moins de 20 ans pour officialiser donc ce deal, à savoir des postes de vice-président et de conseiller en échange de leur soutien. Le tout sous le patronage de la FIFA et de son président Gianni Infantino. On retrouve à Casablanca Amine Birouk. Alors, tout a été décidé d'abord au Maroc fin février et finalisé ce week-end en Mauritanie.
Nous utiliserons le fameux « mieux vaut un mauvais compromis qu'un bon procès ». Car dans les circonstances actuelles, et vu la pression du président de la FIFA, Gianni Infantino, pour coopter d'une façon ou d'une autre Patrick Motsepe, il fallait bien unir les forces, synthétiser les programmes et faire en sorte que d'une façon ou d'une autre, le protocole de Rabat devienne une réalité à Nouakchott. En marge de la finale de la CAN U20. Et aujourd'hui, les rôles seront répartis avec Patrick Motsepe comme président, Augustin Senghor sera son premier vice-président, Ahmed Yahia en sera le second, et Jacques Anouma apportera son expertise et son expérience en tant que conseiller spécial du président. Il va falloir maintenant voir dans quelle mesure on répartira les rôles, de quelle façon on essaiera d'optimiser ses expertises et ses expériences pour le meilleur et pour le pire, et surtout pour le meilleur du foot de l'Afrique.
Amédine, Augustin Senghor a été le premier à avoir annoncé son retrait à travers un communiqué.
Le patron du football sénégalais a fait savoir son retrait des élections à l'instance dirigeante du football africain. Cette décision a été prise après concertation avec les autorités sénégalaises, après le protocole de Rabat selon le communiqué. Ce fameux protocole de Rabat d'ailleurs a été célébré par un match de football qui s'est joué ce samedi à Nouakchott avant la finale de la CAN. De U20, un match où les trois candidats, Ahmed Augustin Senghor, Ahmed Yahia, le Mauritanien, et le futur président de la Confédération africaine de football, le Sud-Africain Motsepe, ont participé en compagnie du patron de la FIFA, Gianni Infantino himself. Seul l'Ivoirien, Jacques Anouma, n'a pas pris part à ce fameux match élevé. Donc maintenant, c'est clair, net et précis. Patrick Motsepe sera intronisé président de la Confédération africaine de football Élysée.
Lawal, finalement, les rencontres répétées d'Infantino avec les chefs d'État africains ont pesé dans le choix du prochain président de la CAF.
Élysée, c'est une tristesse pour le foot africain que l'on ne puisse pas aller au bout d'un processus si bien engagé parce que un certain Gianni Infantino a pris son bâton de pèlerin pour venir coopter comme il se doit un candidat. C'est bien triste et c'est là où Je me dis, à la place de Senghor, de Jacques Hanouma et de
Ahmed
Yahaya, je devrais pouvoir démissionner pour montrer véritablement qu'on a une certaine liberté de penser. Et que moi, en tant que candidat, je laisse ma place à un autre que devienne son vice-président alors que je suis, j'ai fait la candidature au nom d'un programme. Au nom d'un programme, et que
le programme compte aujourd'hui maintenant.
Non, Élisée, c'est là toute la tristesse. Ça veut dire que tous ceux qui étaient candidats n'avaient pas une conviction réelle. Et c'est les compromissions qu'on réussit à faire au niveau de la CAF qui nous amène à tout ceci. C'est vrai que les gens, se regardent leurs intérêts. Et quand les intérêts sont en jeu, adieu la dignité, adieu. Donc, tout ce qu'on peut encore garder comme liberté d'expression et liberté de conviction.
Justement, dans quelques années, les choses peuvent ne pas se passer comme elles ont été prévues. Certains, aujourd'hui, ont accepté le compromis, la nomination de Mossépé à la CAF. Demain, la roue peut tourner, les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets.
Non, Élisée, je vais emprunter cette phrase célèbre à un homme politique béninois, Adrien Houmbedi notamment, qui disait que les campagnes électorales n'engagent que ceux qui y croient. Et si Jacques Hanouma, Augustin Senghor et autres ont cru que pour le prochain mandat, qu'ils vont pouvoir prendre la tête de la CAF, ils se trompent royalement. C'est mon point de vue en tout cas. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit quand on faisait la compromission pour bouter hors de la CAF Issa Hayatou?
Voilà.
On avait fait des compromissions pour amener Ahmed Ahmad, n'a pas pu terminer son mandat. Et si ceux qui aujourd'hui sont autour de Mossépé estiment, pensent, croient, ce qui est de bon droit, qu'ils vont remplacer à la tête de la CAF Mossépé, ils se foutent le doigt dans l'œil. On a entendu le Sénégalais dire que la FIFA n'avait aucune main derrière tout ça. Et qu'aujourd'hui, en moins d'une semaine. Et qu'on tourne Kazakh comme ils l'ont fait. Non, il n'y a que. C'est les intérêts des uns et des autres qui sont en jeu. Les gens ont certainement trouvé où se trouvaient les intérêts et puis en ont profité.
C'est là, revenu sur leur parole.
Ouais, c'est ça qui est triste. Et j'ai dit, entre la liberté, la dignité et les convictions, il y a un grand fossé. Aujourd'hui, que Maître Augustin Senghor se rallie à son adversaire d'hier, que Jacques Hanouma se rallie à son adversaire d'hier et qu'on ait prêté des intentions à d'autres personnes qui aient nié tout ce qui s'est passé et que les visites de Gianni Infantino chez les chefs d'État africains puissent être interprétées comme une main de la FIFA derrière l'élection à la CAF, qui soit venu devant le public, qui nous ait juré qu'il n'y a aucune main qui aujourd'hui se comporte comme ça. C'est bien désolant pour ceux-là qui aspirent à diriger le foot africain.
Les intérêts ne sont pas les mêmes. Infantino, lui, prépare sa réélection en 2023 à la tête de la FIFA.
On n'a pas besoin pour une réélection d'avoir cette main, la salle, dans la gestion du foot africain. Quand on avait voulu sortir Hayatou du siècle, on a trouvé une compromission. Quand on a voulu sortir Ahmad Ahmad du siècle, on lui a trouvé une compromission. Aujourd'hui, on a trouvé une compromission également pour Mossépé. Et de compromission en compromission, le foot africain ne pourra jamais se libérer du joug de la FIFA. C'est ça qui est triste, Élisée.
Valdo, on en sait un peu plus sur la façon dont la CAF sera gérée. Un protocole d'accord qui est basé sur un programme commun.
Élisée, tout semble être connu avant même qu'il ne se tienne ce 12 mars au Maroc cette élection. De l'heureux vainqueur à la répartition des postes, ça ne sera donc pas une surprise. Le protocole de Rabat se présente comme un traité de paix signé par ceux qui hier étaient des candidats en course au poste de président qui ont fini par trouver un intérêt d'entente pour qu'au finish, tous se retrouvent dans le prochain comité qui va succéder à celui d'Ahmad Ahmad. Le fait de se mettre d'accord sur ce protocole prouve à suffisance que non seulement ils se sont mis d'accord sur l'ordre hiérarchique leur proposé par la FIFA, pour ne pas citer Gianni Infantino, ce qui sous-entend qu'il doit y avoir un programme commun, parce qu'entre nous soit dit, ce qui doit les unir doit être un programme bien établi, une vision pour le football africain, avec ses réformes qui s'imposent et non les désirs et la volonté de faire partie du nouveau bureau de la CAF.
Amine, Finalement, on aura un président choisi par la FIFA, comme pour Ahmad il y a 4 ans.
Tout à fait. Ahmed Ahmed, en 2017, avait déjà été adoubé par Gianni Infantino. L'expérience n'a pas fonctionné comme on l'espérait. On espérait une alternance en douceur par rapport au legs de Issa Hayatou et surtout une meilleure gouvernance. Il n'en a pas été véritablement, ou on n'a pas été véritablement servi comme on le souhaitait. Le choix d'Ahmed Ahmed s'est avéré une erreur, en tout cas en apparence, puisqu'on a eu beaucoup d'atermoiements, de précipitations, de décisions à, je dirais, précipiter. Et aujourd'hui, il va falloir reprendre de zéro avec le nouveau poulain du patron de la FIFA, Gianni Infantino, à savoir Patrick Motsepe. Rappelons également le poids électoral de la CAF, c'est 54 fédérations, c'est 54 votes, et l'échéance 2023 pour la réélection du patron de la FIFA n'est pas si lointaine.
Viens vers vous, Valdo. Et pourtant, certains candidats comme Augustin Senghor et Ahmed Yahia ont nié l'existence d'un candidat poussé par la FIFA et qu'il n'y a jamais eu influence réelle ou supposée de la FIFA dans cette élection.
Élisée, il devait plutôt trouver un autre discours qui est de nier ce qui n'est un secret pour personne, car aujourd'hui, les membres du football ont ses yeux sur le continent africain où siège depuis peu la FIFA, notamment à travers la présence comme jamais auparavant de son président Gianni Infantino en Afrique. Qu'il nous dise d'où est venue cette répartition de la gestion de la CAF avant même qu'il ne se tienne les élections, si ce n'est de la FIFA. L'accord de Rabat émane de Gianni Infantino qui avait délégué ses deux hommes de main, notamment Véron Monsengo-Omba et Mathias Grastrom, respectivement directeur de la division association membre de la FIFA et l'assistant principal du président de la FIFA. Élisée, tout sauf cette affirmation de Senghor et Yaya, ils peuvent tout nier sauf cette influence plus que jamais avérée de la FIFA à quelques jours des élections. D'ailleurs, ce qui me pousse à me poser la question de savoir si ce n'est pas la FIFA qui organise les élections au niveau de la CAF.
Ahmedine, les retraits de Senghor, d'Anouma et de Yaya ne suscitent-ils pas des interrogations ou d'indignations vu l'implication de la FIFA?
Si Élisée, les retraits de M. Augustin Senghor, d'Anouma et de Yahia suscitent des interrogations et d'indignation, car il y a la main de la FIFA. C'est vrai que le compromis existe partout, mais il doit émaner des concernés eux-mêmes. Mais pour cette élection à la présidence de la Confédération africaine de football, tel n'a pas été le cas, car c'est la FIFA, pour ne pas dire Gianni Infantino, qui a choisi le futur président de la Confédération africaine de football, et cela est inacceptable, car non seulement c'est de l'ingérence, mais le futur président de la CAF qui a été choisi par la FIFA va agir sous les ordres de la FIFA et fera tout pour défendre les intérêts de la FIFA, ce qui est inadmissible. Donc je pense que les Africains doivent faire attention à ce qu'ils font, et pour cette élection de la FIFA, l'Afrique a été le grand perdant. Élisée.
Et pourtant, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a nié avoir fait preuve d'ingérence dans ces élections. Il a joué collectif.
Le football, c'est un sport d'équipe. Ces quatre messieurs ont rendu l'impossible possible. C'est le symbole de maturité ultime.
Lawal, Patrice Motsepe sera ainsi le premier anglophone à diriger la CAF, créée en 1957 et basée au Caire.
Oui, premier anglophone, c'est un Africain. Il gère l'instance fêtière du foot africain. On n'a rien contre la personne de Patrice Motsepe, mais je me pose une question. Est-ce qu'il pourra avoir véritablement les mains complètement libres pour apporter les réformes qu'il est en train de porter? Parce que les compromissions qu'on a faites pour qu'il soit nommé, non plus élu, mais nommé, est-ce qu'il va pouvoir faire les choses comme il se doit? Et je crois, je crains que les prochaines années, la prochaine mandature de cette CAF-là puisse être une mandature de toutes les difficultés, Élisée, parce que là, est-ce qu'il pourra véritablement avoir la possibilité d'imposer ce qu'il a comme programme? Il a dit qu'il n'est jamais venu pour rendre la vie dure au Maroc. Aujourd'hui, c'est au Maroc qu'on scelle le deal de cette compromission, je le répète encore une fois. Et lui, est-ce qu'il pourra véritablement gérer la CAF comme il se doit? C'est toute la question qu'on se pose, et je parie qu'il sera victime des mêmes causes que Ahmad Amada a subies pour être éjecté comme il a été de la tête de la CAF.
le terrain, la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans a rendu son verdict à Nouakchott en Mauritanie. Et là, le Ghana, en habitué, soulève sa quatrième coupe.
Oui, on devrait s'y attendre. Le Ghana a montré bien qu'il est dans son domaine et qu'il est et donc un candidat sérieux.
Le seul pays à avoir gagné une Coupe du Monde de cette catégorie, il faut
le souligner. Donc il faut dire que les Ghanéens sont des habitués de cette compétition. En attendant que les seniors ne remportent à nouveau la CAN, les catégories d'âge montrent le chemin aux grands et il était important donc pour le Ghana de s'imposer. Mais ce qui est important également à souligner, c'est cette équipe qu'on va dire novice, qui est parvenu jusqu'à aller en finale et qui a montré, qui a donné du fil à retordre aux Ghanéens.
Qui a bien géré les matchs à élimination directe.
Et finalement, on devrait pouvoir donc applaudir l'Ouganda pour cette prestation monstrueuse que les jeunes ont offerte au public africain et dire que véritablement il est important de suivre désormais ce pays-là dans le giron des pays africains du foot.
Alors Valdo, le novice ougandais n'a pas démérité.
Pas du tout Élisé, quoique battu en finale par les Ghana, ça aura été une belle expérience pour ces Ougandais qui ont fait mieux que plusieurs formations habituées à ce genre de compétition. Prétendre au titre et s'arrêter au bout des 90 minutes avec les statuts de vice-champion et de surcroît novice dans cette compétition, c'est donc une participation réussie. Comme ça n'a pas été cette édition, l'obligation serait de mieux affûter ses armes pour soit prétendre au titre dans une autre catégorie, parce que lorsqu'on joue une finale, ça laisse toujours pousser des ailes. À la fin d'une compétition, il faudra bien tirer les leçons de ce qui n'a pas marché, mais il y a une évidence sur les continents au niveau des équipes d'âge. Il y a des sélections qui traînent une réputation, notamment leurs bourreaux. Ils peuvent bien regretter pour avoir été privés du titre d'une part, mais de l'autre, il y a de quoi s'apaiser car l'adversaire en face, c'est nommé les Ghana.
Amine, tout comme le Cameroun pour le CHAN, la Mauritanie aussi a réussi le pari de l'organisation, ce malgré les difficultés liées au coronavirus.
Tout d'abord, il faut saluer l'effort fourni par la Mauritanie pour la réussite de cette CAN U20, un rassemblement pour la jeunesse africaine avec de nouvelles infrastructures, du savoir-faire et beaucoup d'abnégation. Et puis sur le terrain, féliciter le Ghana pour son sacre. Les Ghanéens ont été au rendez-vous au moment où il fallait, c'est-à-dire lors des matchs à élimination directe avec ses victoires en quart de finale devant le Cameroun, en demi-finale face à la Gambie, puis surtout en finale face à des Ougandais qui avaient été impressionnants face à la Tunisie lors du match du dernier carré de la compétition. Des Black Stars habitués aux premières loges dans les compétitions des jeunes et qui renouent avec leur passé glorieux.
On reste avec vous, Amine, pour enchaîner avec les interclubs de la CAF en Ligue des Champions. On jouait ce week-end à la troisième journée de la phase de poule et les Marocains du Wydad de Casablanca enchaînent face aux Guinéens de Oraya pour prendre le large.
Et le Wydad qui poursuit son sans-faute samedi soir face au Oraya Conakry, il y a eu une victoire avec la manière, 2-0 face au champion de Guinée avec notamment un premier but magnifique d'Ayoub Kabir, représentant ciseaux, retourné parfaitement, réussi. Et puis un deuxième but en toute fin de rencontre du Tanzanien Simon Msuva. 3 matchs, 3 victoires, à chaque fois face à des adversaires qui étaient venus crânement défendre leur chance face au vice-champion du Maroc. Le Wydad n'a plus besoin quasiment que d'un point qu'il pourrait récolter à Conakry dans 10 jours pour assurer sa place en quart de finale.
Ahmedine Sy, apprentissage difficile pour les Sénégalais de Tonguet qui se sont inclinés à domicile face aux Algériens de Mouloudia.
Tout à fait, Élysée, le New Sweep Tonguet FC qui découvre la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire est en train de souffrir. C'est vrai, la pratique est très difficile pour le club sénégalais qui a concédé sa deuxième défaite en 3 rencontres. Les Poulains de Youssou Dabo se sont inclinés à domicile face au Mouloudia d'Alger sur le score d'un but à 0. Les Russes ont été cueillis à froid par les Algériens qui ont marqué un but à la 15e minute. Les Russes ont finalement pris le match à leur compte. Ils ont dominé, ils se sont créés beaucoup d'occasions. l'occasion sans pour autant faire l'essentiel. L'essentiel, c'était de remettre les pendules à l'heure, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Pourtant, ils ont créé beaucoup d'occasions. Avec cette défaite, il faut dire que Tengit FC occupe la dernière place du groupe, puisque Tengit Corps FC totalise un nul et deux défaites. Donc, Tengit FC occupe la dernière place du groupe D avec un point seulement. Donc, ce sera très difficile pour l'équipe sénégalaise de pouvoir décrocher un ticket pour la qualification. Maintenant, il s'agira d'abord de tout faire pour sauver l'honneur, essayer d'avoir sa première victoire en Ligue des Champions. Après, on essaiera de créer l'exploit. En tout cas, c'est très difficile pour les Rifispa Élysée.
Valdo, fortune diverse pour les clubs congolais. Le TP Mazembe tombe à domicile, une première depuis 12 ans, pendant que la SV Club est allé accrocher le tenant du titre à l'Ali au Caire.
Sacrée performance pour les Dauphins Noirs de Kinshasa qui sortent de la capitale égyptienne avec le point du nul. Archi dominé certes dans cette rencontre, il fallait bien une prestation XXL du gardien camerounais Omosola pour que votre club s'en tire avec ses résultats nuls au goût d'une défaite côté Alali qui a cru à un moment l'emporter, mais le penalty de Toulenge est venu équilibrer les marquoirs à deux buts partout pour les déformations qui ont cette fois le rendez-vous le 16 mars prochain à Kinshasa. Votre club a apaisé tant soit peu la peine des Congolais et qui, pour la première fois un peu plus tôt, ont été contraints de voir le tout-puissant Glaber Mazembe impuissant devant les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns. Vous l'avez dit, Élisée, une première défaite en 12 ans, une première aux interclubs de la CAF. Ces Mazembe-là va mal. Pour certains, c'est la plus mauvaise équipe depuis bien des années et qui ne devait que concéder cette défaite 2-1. Un but en 3 matchs, il faut sonner la révolte s'ils veulent rester en vie dans cette compétition, bien qu'ils soient deuxième avec 2 points dans leur groupe.
Merci Valdo. Et cette année, aucun club de la RDC ne sera en phase de poule de la Coupe de la CAF qui sera à sa première journée mercredi. Amine, pour sa part, le Maroc est représenté par 2 clubs. Le tenant du titre, la Renaissance de Berkane dans le groupe B sera aux prises avec les Zambiens de Napsa et dans la poule D, le Raja de Casablanca sera l'hôte des Tanzaniens de Namungo.
Renaissance sportive de Berkane qui devra défendre son titre sans son entraîneur Tarek Skitiwi, démissionnaire samedi après une nouvelle défaite en championnat, quelques jours après une sortie de route malheureuse en Coupe du Trône. Autant dire que ce devrait être le match du rachat pour la Renaissance de Berkane face aux Zambiens de Napsa qui vivent leur première expérience en phase de groupe de la Coupe de la CAF. Et puis le Raja de Casablanca devra résoudre l'équation appelée Namungo. Namungo qui a réussi un parcours impressionnant lors des barrages face aux Angolais de Primeiro de Agosto. Mais il y a d'un côté le métier des Verts et Blancs qui ont réussi quand même à se sortir de l'écueil représenté par l'équipe tunisienne de Monastir et qui ont de très belles individualités. Et de l'autre côté, l'enthousiasme des Tanzaniens. On verra dans quelle mesure les Marocains confirmeront sur le rectangle vert les faveurs des pronostics. En tout cas, ils partent favoris sur le papier. Une équation à concrétiser.
Amédine Sy, le foot sénégalais des clubs n'a jamais été si représenté durant les 10 dernières années. Après Tonguet en Ligue des Champions, Djaraf représentera le pays en Coupe CAF et ce sera à Sousse contre l'Étoile du Sahel.
Vous avez raison, Élisée, le Djaraf qui joue pour la première fois de son histoire les phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football ira défier l'Étoile du Sahel à Sousse pour le compte de la première journée. Les Verts Blancs qui ont été impériaux lors des matchs de qualification en écartant les Ivoiriens de San Pedro et les Zimbabwéens de Platinum, ils tenteront de poursuivre sur cette lancée en ramenant un bon résultat de Sousse. Et pour leur baptême du feu, le Djaraf pourra compter sur son nouveau coach. Il s'agit de Cheikh Gueye, le jeune technicien sénégalais qui était sur le banc d'FC Kaloum de la Guinée, a quitté ce club après un passage éphémère pour rejoindre les Verts Blancs du Djaraf. L'ancien coach de la Sonacos et du Stade de Mbour conduira donc l'équipe sénégalaise face aux Tunisiens. Il fera tout lui aussi pour que le Djaraf réussisse un bon résultat. Ce ne sera pas facile puisque Sousse n'est pas l'Étoile du Sahel n'est pas n'importe quelle équipe. C'est vraiment un bon club, mais le Djaraf essaiera quand même de pourquoi pas battre cette équipe ou de ramener un match nul. Une mission très difficile, mais pas impossible pour les Verts Blancs du Djaraf et les
Sporama, c'est fini. Merci à toute l'équipe qui a participé à sa préparation et à sa diffusion. À notre média partenaire au Bénin, Radio-Télévision Carrefour. À lundi prochain. Au revoir.